Compose, épisode 54.
Moi, j'étais terrorisée, mais lui, pas.
Moi, je pense que dans ce genre de secteur ou dans n'importe quelle activité, quand tu te lances, faut pas vraiment avoir peur. Mm-hmm. Parce que la peur va juste engendrer un sentiment de panique, ouais, en plus de situations que tu dois gérer de toute façon. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de paniquer. Ça sera encore plus compliqué de pouvoir gérer tous les obstacles qui vont s'offrir à toi. Mm-hmm. Donc, je pense que tous les papiers que tu reçois, que toutes les choses que tu dois gérer, que tous les contacts humains, mauvais ou bons, que toutes les challenges, bons ou mauvais également, qui s'offrent à toi, ne nécessite pas forcément la panique. Tout ça est totalement virtuel, mm-hmm, dans la réalité.
Donc, ça fait un bon équilibre à deux, quoi.
Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Valentin Norberg et Charlie Guillams, qui ont cofondé Botanical, un célèbre bar à cocktails namurois. Ensemble, on a parlé de leur intérêt pour les bons produits, de leurs premières expériences dans l'Horeca, de leur rêve d'avoir un jour un établissement, de leur premier bar, une caravane, des compétitions de cocktails, de la peur de se lancer, de la complémentarité de leur duo, d'être un Belge à l'étranger, de leur équipe. Vous l'entendrez, dans cet épisode, Stella, leur chien, était aussi avec nous. Elle a été extrêmement calme jusqu'au moment où elle a essayé de grignoter un peu le matériel. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, merci Charlie et Valentin d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Vous avez donc, et il ne faut pas oublier qu'il y a Stella aussi qui est avec nous. Mmh. Elle vient déjà chercher des câlins.
Sous le bureau, absolument.
À sa place.
Vous avez donc cofondé...
À préciser que Stella est un chien.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est pas mal
pour nos auditeurs.
C'est vrai qu'on ne la voit pas, mais mmh, on partagera une photo d'elle quand même, voilà, pour montrer qu'elle était là. Vous avez donc cofondé Botanical. Est-ce que, pour introduire un peu le spectacle... Le podcast, peut-être, c'est mieux.
Ouais.
Vous pouvez expliquer, en fait, ce que c'est Botanical.
Tu veux expliquer ou j'explique ?
Vas-y, explique.
Ok, donc du coup, Botanical by Alphonse, c'est un petit bar à cocktail. C'est 45 mètres carrés de fun dans le centre de Namur. C'est un peu un terrain de jeu, puisque du coup, on va y servir des cocktails qui sont hyper créa, qui demandent à Valentin pas mal de recherche créative, etc. Donc c'est vraiment un terrain de jeu pour nous, puisque du coup, on peut y faire un peu tout ce qu'on veut. On est uniquement basé sur les boissons. Et en dessous se cachent 45 mètres carrés de labos qui vont nous permettre en fait de justement réaliser ces créations.
Mmh. Et avant de venir vraiment à cette ouverture, comment est né en fait votre intérêt pour les cocktails ? Pourquoi c'est sur ça ? C'est vers ça que vous êtes parti ?
On a commencé les cocktails, j'ai commencé les cocktails à la base parce que, étant jeune, désargenté et sans diplôme, ma voix s'est dirigée évidemment derrière un comptoir pour commencer. Et on a eu déjà un intérêt pour faire des cocktails, on trouvait ça rigolo. Et puis une grande question qui s'est ouverte, qui était pourquoi on utilise uniquement des produits industriels pour la réalisation de cocktails. Parce que c'est ça le grand cas des cocktails aujourd'hui, c'est que dans la restauration classique, on va au moins 85%, peut-être même 90% de ce qui est servi actuellement en Belgique sont des cocktails faits à base de sirop, de purée, de concentré et d'alcool qui sont de qualité industrielle. Donc ça a été la première question ouverte, ça a été pourquoi on ne pourrait pas faire des cocktails mais avec des produits qui sont maison et artisanaux. Parce que au final, le plus important, que ce soit dans une assiette, pour commencer évidemment, c'est évidemment d'avoir un produit de qualité et pourquoi pas dans un verre. Et on a juste retransvasé en fait cette idée en fait d'avoir le vrai goût des choses dans les boissons.
Et comment est née cette réflexion en fait chez toi ?
Simplement parce que je viens d'une famille où on n'a jamais consommé de produits industriels. Mmh. J'ai mangé mon premier McDo à 18 ans, ma première pizza surgelée.
C'était le début de la catastrophe, parce qu'après il mangeait de la merde.
Ouais, ouais. Dépendance aux bonbons, terrible, terrible, vraiment terrible. c'est simplement cette question-là. En fait, tu dis pourquoi on utilise tous ces produits industriels. Et bah, moi, j'ai justement été élevé dans ce cadre où tout est fait maison. Il y a pas un produit de surgelé, pas un de ces éléments-là qu'on va retrouver. Donc, en fait, on a juste retransvasé cette idée en fait de faire des cocktails, mais avec que des sirops qu'on fait maison, que des extractions qui sont faites maison. Et on a voulu ouvrir un bar. Évidemment, comme dans ce premier cas de jeunes désargentés sans diplôme, les banques, ils ont un petit peu rigolé. On n'a pas pu vraiment avoir de cadre financier pour pouvoir réaliser ce projet. Et on a commencé avec des petites caravane.
Tu sais que t'es en train de lui prendre toutes ces questions là, parce que c'est à part monologue, le podcast sur Valentin Norberg et sa grande vie.
J'ai vu monologue compose podcast. Que...
Elle t'a demandé pourquoi est-ce que tu commençais à faire de l'artisanal.
Voilà. Le podcast est terminé. Merci d'être venu.
Ah, merci beaucoup, c'était super sympa.
Moi, mais je vais faire une petite sieste sur le côté. Pour
non, ça va. À ton tour, Charlotte.
Non, mais ce que je voulais dire, moi, par rapport à ça, c'est qu'on était tous les deux donc dans le récap et Valentin était à Place du Vieux à ce moment-là. Et donc oui, il va envoyer énormément de produits industriels, de Mojito, Caipirinha et tout ce que tu peux imaginer. Et voilà, cette réflexion se dit, mais au final, moi qui viens d'une famille où tout est fait maison, pourquoi est-ce que je pourrais pas prendre le temps de me faire un petit sirop de sucre sur le côté, un petit sirop de menthe pour le temps que ça prend? C'est quand même vachement mieux. Et donc, il va commencer à jouer et amener ça dans ses cocktails.
Et à ce moment-là, quand on a cette réflexion, vous êtes déjà ensemble alors?
On a eu quelques échanges du coup.
Oui, on est déjà ensemble, ouais.
Et ouais, j'avais lu sur votre site, justement, mais tu parlais déjà de la caravane, que vous aviez une envie d'entreprendre aussi. Ça vient d'où cette envie comme ça d'entreprendre et d'être maître de vos propres projets?
Mais du coup, je pense que c'est la première chose que... Enfin, dans les premières conversations sérieuses qu'on a eues ensemble, c'était ça. Je pense que c'était très vite un point d'échange de se dire que nos rêves à tous les deux étaient en fait l'ouverture d'un endroit. Alors, on avait des rêves qui étaient très différents. Mais c'était vraiment c'est vraiment ce qui a été mis sur la table tout de suite en se disant en fait c'est moi en fait quand je rêve de l'avenir, parce que du coup Valentin il avait 21 ans quand je l'ai rencontré, et quand je rêve de l'avenir, ben je rêve d'avoir un établissement qui fasse ça et ça, et moi j'avais déjà écrit pas mal de textes en disant qu'un jour je rêvais aussi d'avoir un certain type d'établissement, mais qui sont bien loin de ce qu'on est aujourd'hui avec Botanical, Licorette et tout ce qu'on propose, mais voilà, il y avait déjà ce point d'ancrage et cette idée commune, en tout cas, d'avoir un lieu de vie, quoi. Mm-hmm.
Et donc, l'étape de la caravane, c'est vraiment... Le déclic est né du fait que les banques vous rient un peu au nez quand vous dites que vous voulez emprunter pour ouvrir un établissement.
Ouais, c'est tout ça. À fait. Vas-y, tu peux expliquer maintenant.
J'ai le droit. Merci. Du coup, oui, en fait, c'est simplement le fait qu'on n'avait pas les moyens, en fait, d'ouvrir un établissement. Et on a commencé par en fait acheter une petite caravane au fin fond de la Hollande, une Knauf 75, si vous voulez tout savoir du modèle. On l'a refait nous-mêmes avec mon papa, qui a un atelier à la maison et qui est un ouvrier de qualité supérieure, qui a pu mener à bien avec moi ce projet de faire cette caravane avec ce grand comptoir en chêne, avec les petits frigos en dessous du comptoir, un évier, une pompe, tout ce qu'il fallait en fait pour commencer à faire des cocktails. Et donc on crée cette caravane et là on se dit voilà, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va faire un appel à projet, donc Charlotte va faire cet appel à projet. Charlotte, c'est à ton tour.
Merci Valentin de me donner la parole ce soir. Donc moi déjà j'étais pas très contente parce que je vois Valentin revenir de Hollande avec son papa avec une caravane qui est en parfait état, avec des petites couchettes, des petits rideaux. Je dis mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? On est en appart Place du Vieux à Namur, on est super jeunes. Enfin voilà, moi j'étais un peu dégoûtée. Le fait qu'on nous ait dit non aussi pour les banques, moi c'était un échec. Donc j'ai pas du tout ce comportement ou en tout cas cette personnalité qui va plus se dire écoute, c'est un obstacle, on continue. Moi c'était un obstacle, mais on arrête. on s'est planté. Que Valentin pas du tout. Et donc du coup il revient avec cette caravane en disant j'ai trouvé, on peut pas avoir de bar parce que toutes les banques se sont foutues de nous, mais on va faire un bar dans une caravane. Je me dis mais en fait il est complètement con. qu'est-ce qu'il va faire? Et donc pour finir il commence à travailler sur cette caravane. Je vois que c'est vachement joli, que c'est vachement cool, donc tout d'un coup je m'intéresse vachement plus et effectivement je vais envoyer une centaine de mails, je pense, avec la description de la caravane en disant voilà, on a un bar mobile, on a envie de faire des cocktails de façon artisanale.
Ça a des marques, justement, des marques, voilà. De spiritueux, des distilleries,
tout ce qu'on connaissait, quoi. Et donc on envoie une centaine,
pas grand chose.
Voilà, donc un appel d'offres, c'est bien joli. Non, c'est juste des mails avec des jolis documents. Et Canva n'existait pas à l'époque, donc c'était pas facile. Et donc du coup, je vais avoir une seule réponse sur les 100 mails. Mm-hmm. Et c'est la distillerie de Biercé, qui est quand même une référence. En plus, à ce moment-là, moi, j'ai pas énormément de compétences dans les spiritueux. Et donc c'est l'eau de Villet, c'est quand même un produit iconique belge. C'est ce que ma grand-mère buvait à outrance. Et donc, du coup, merci, feu ma nanny. Et donc, du coup, on accepte et eux vont commencer à nous faire travailler. Donc, ils vont en fait avoir des produits sur lesquels on doit bosser. Donc, soit un nouveau produit, on doit créer des cocktails. première étape créative, ou alors on prend bah, leur gamme existante et on propose des cocktails variés. Et donc du coup, ça doit être devant des cavistes où leurs produits sont proposés. À l'époque, c'était Macro aussi. Enfin, donc du coup, on va enchaîner les parkings, les cavistes dans le fin fond du monde, dans les Ardennes.
Ouais, qui... que des aventures rocambolesques avec des situations voilà,
sous
plus
la
drôles
pluie, sous le soleil, avec des pannes. Et voilà, et puis il faut quand même savoir qu'une caravane comme ça, avec des cocktails, bon, c'est un peu comme les food trucks, au niveau énergie, c'est quand même pas mal. On était bien fatigués, mais c'est nos premiers contrats. Donc je pense qu'on va travailler combien de temps avec eux ?
Je pense 8 mois.
Ouais, un truc
comme
ça.
8 mois, un truc comme ça. C'est donc principalement le cadre de la sortie d'un nouveau produit chez eux, qui est un bitter, un amer. Un peu comme qu'on pourrait comparer à un amer italien comme Campari, par exemple. Mmh. Et donc on va voguer à travers la Belgique pour présenter ce produit tous les samedis.
Et là, du coup, les gens que vous atteignez, c'est un public plus professionnel ou...
Non, absolument pas.
Vous touchez tout le monde.
Imaginez-vous simplement sur un supermarché, ouais, sous la pluie battante belge, avec monsieur et madame tout le monde qui ressort de ce supermarché après avoir écumé les promotions et qui a le droit à une dégustation gratuite, évidemment. Mm-hmm. Donc voilà.
C'est... Donc on est un petit peu, tu sais, quand tu vas dans les supermarchés et que tu peux avoir ton boudin gratuit ou ton petit morceau de fromage.
Malheureusement,
ça,
on
n'avait
pas
nous.
De boudin.
Et on n'avait pas de boudin, tant mieux. Donc on va faire ça. Bon, après, on va toucher des professionnels, c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que du coup, on va quand même aller chez des cavistes aussi à ouais, Bruxelles, en Flandre, qui sont déjà dans l'émergence du cocktail, donc ça va nous faire... à un moment donné, un peu des contacts. Mmh. Donc ça, c'est très bon à prendre. Mais il y a des gens qui nous reçoivent, qui n'ont aucune idée de qui ils vont recevoir, parce que c'est la distillerie qui nous envoie. Et donc, du coup, nous, on doit avoir du matos sur place. Par exemple, comme des glaçons. Il faut des glaçons qui soient quand même un minimum professionnels. Et on va arriver dans des endroits où on nous donne 4 glaçons qui sentent le fish stick.
Sortis du congélateur, c'est les petits glaçons en forme de banane et d'étoile, oh, là, tu vois. Qui sentent les épinards et le fish stick, ouais, c'est
pas,
génial.
C'était pas gagné d'avance.
Des trucs géniaux, vraiment. Un contact humain extraordinaire.
Et comment vous vivez cette période-là ? Enfin, justement, ça vous donne la motivation pour la suite ou ça vous fait un peu plus bah, peur ?
Trop bien, non, je pense qu'on est trop contents.
Hein. Oui, oui. Après, voilà, je veux dire, on est belge de formation, donc on est prêt à s'adapter à n'importe quelle situation. Et bah, c'est surtout, ça nous fait nos premiers sous. Mm-hmm. Ça nous permet d'avoir un tout petit peu de trésorerie pour voir un peu ce qui se passe après, pour payer notre loyer, par exemple, aussi. Et puis, de là, on commence un peu à évoluer un petit peu dans ce monde-là.
Ça te permet de te mettre en complémentaire, déjà,
ouais,
dans un premier temps.
Ouais,
parce que moi, je travaille au Night and Day, Jambes, rue de Bruxelles et voilà, tout Namur Environnement, pour les connaisseurs. Et Valentin travaille à la cuve à bière. Qui est,
à l'époque.
Voilà. Et donc, du coup, grâce à notre contrat, Valentin va passer en complémentaire.
On est en 2016.
Ah ouais, ouais. Ouais, on est en 2015, mais 2015, en 2016 officiellement.
2016, ouais.
On va couper ça, Valentin.
Ouais, couper.
Ouais, et donc, il y avait cette envie vraiment de faire monter le projet petit à petit et de lâcher ce que vous aviez à côté.
On ne savait pas trop.
On était vraiment jour le jour.
Ah ouais.
Et on n'avait pas la ligne de conduite du projet, c'était simplement de faire des cocktails et d'arriver à gagner un peu d'argent. Mmh. Mais il n'y avait pas encore... On avait ce rêve au loin d'un bar à cocktails, mais on n'avait pas vraiment... Il y a rien de défini, rien n'était écrit, c'était vraiment une énorme improvisation.
Voilà, on se marrête, on a la liberté, on arrive sur des endroits, on fait des cocktails, voilà, on vit vraiment jour le jour, on n'a pas du tout de programme, quoi.
Mm-hmm. Et vous connaissiez un peu déjà la réalité de la vie d'un indépendant?
Absolument pas.
Pas du tout?
Mon père, quand même, est indépendant, donc forcément, je sais que c'était compliqué, mais à part ça, pas dans l'Horeca en plus, donc non, pas trop.
Non, on a travaillé, évidemment, on a fait des heures dans l'Horeca avant, mais c'est pas quelque chose... On n'avait pas une connaissance dans l'entrepreneuriat qui était très forte. On l'a évidemment découvert sur le tas au départ. Mais au départ, voilà, on est tous les deux sur un temps qu'indépendant complémentaire. On lance ce projet de caravane qu'on a mis avec... qu'on a construit et créé comme budget. Je pense que le lancement de notre projet, c'est quoi, 2500 euros d'investi.
Ouais, c'est 500 euros, je pense, de caravane.
La caravane, les travaux, la totale, quoi. On a tout fait parce qu'on a tout fait de nos mains. Donc, c'est pas un risque énorme départ financier.
D'où le fait qu'il n'y ait pas de programme.
D'où le fait qu'il n'y ait pas de programme.
Ouais, ouais.
Et puis, de là, avec les caravanes, on commence, je me lance dans cette idée de concours, de compétition de cocktail. Parce ouais. que vraiment, à ce moment-là, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, on a une énorme domination dans les compétitions de cocktail qui est flamande. Et il y a deux énormes concours mondiaux qui existent encore plus ou moins aujourd'hui, mais qui n'intéressent plus vraiment à la nouvelle génération, qui sont le Bacardi Legacy et le Diageo World Class. Qui sont donc deux groupuscules gigantesques dans la distribution de spiritueux internationaux. Et ils organisent ces concours-là. Tout le monde le fait. C'est que des Flamands et des néerlandophones qui vont là, qui vont en compétition internationale. Et là, on a une compétition qui sort, qui est très accessible sur le marché. Et je postule à cette compétition.
Valentin postule pas dans les grandes parce que du coup, à ce moment-là, on a une philosophie aussi d'être totalement indépendant. Mmh. On a ce rêve, tu sais, de travailler qu'avec des tout petits spiritueux, etc. Ouais. Mais voilà, après, la vie et l'expérience va nous prouver aussi qu'il faut évoluer. Mais à ce moment-là, on a cette image encore où on va pouvoir aller chez un artisan et travailler qu'avec des toutes petites distilleries.
Voilà.
Et donc, du coup, on a un concours qui s'appelle...
Marie White Cocktail Competition.
Ouais, de la Deluxe Distillerie. Et donc, du coup, c'est un gros concours à Courtrai. Mmh. Et voilà, il faut avoir un bar pour participer, etc. Donc, nous, évidemment, on met pas que le bar, il a quatre roues, quoi. On dit oui, bien sûr, on a un bar.
Bien sûr.
Voilà.
Et comment ça se passe? C'était quoi? Enfin, déjà, ça consistait en quoi? Tu devais faire quoi pour
en fait, en gros, on va dire, pour résumer, une compétition de cocktail, ça se résume en quoi? C'est une compétition ouverte.
Ouais.
Donc, c'est en gros, en général, l'application pour une compétition, c'est tu envoies ton cocktail, une photo évidemment liée, une histoire sur ton cocktail, les techniques utilisées, les ingrédients. Voilà. De là, il y a le futur juré ou les gens de la marque vont un peu, écrémer ce qui leur semble bon de ce qui leur semble mauvais, selon évidemment leur vision. Et si tu es repris dans une compétition, tu vas accéder à la première partie qui est, un peu le challenge. Mmh. Où tu vas venir présenter ce cocktail devant un juré. Et de là, le juré va désigner un podium sur les cocktails. Dans cette compétition-ci, tu avais deux parties. Tu avais la première partie qui était donc le cocktail d'enregistrement où donc tu venais présenter le cocktail au juré. C'est comme on imagine, hein, donc tu as les jurés assis sur une table devant toi qui te regardent en hochant la tête. Tu es devant un bar, enfin tu es derrière un bar, tu réalises le cocktail avec ta petite histoire. Tu as un timer qui est limité pour l'explication, la réalisation, l'envoi des cocktails. Et derrière tous ces jurés, il y a évidemment tous les autres compétiteurs qui te regardent et leurs proches. Donc, t'as un peu un auditoire, en fait. Et donc, le premier cocktail, donc je le réalise, par une chance inouïe, on est repris pour la deuxième partie du concours, où là, t'avais un deuxième cocktail, hein, qui était un challenge, qui était à l'époque sur le Bloody Mary.
Alors, la vérité vraie, quand même, là-dessus, c'est que Valentin, la veille, on travaille pour la Bruxelles Cocktail Week à Bruxelles.
Coucou, Soso.
Bonjour, Soso. On travaille assez tard, on revient à Namur de Bruxelles en camionnette avec notre stuff et tout.
Et une gueule de bois.
Et Valentin en gueule de bois. Et donc,
mentir,
Valentin
hein.
fait une crise, parce que je pense qu'il stresse et qu'il veut pas aller. Non, il fait une crise de ouf.
Pas du tout.
Si, si. et donc, on doit aller à Courtrai, mais c'est loin, à Courtrai de Namur. Et donc, il dit, moi, je laisse tomber, je m'en fous. Et donc, du coup, il dit, moi, je m'en fous, j'y vais pas. Je dis, Valentin, tu m'as pas saoulé avec tous ces trucs. Moi, c'est moi qui envoie les documents derrière, les photos, les trucs. Je dis, non, tu fais jusqu'au bout. De toute façon, tu risques rien. Donc, pour finir, on se fait 2 heures de voiture avec tous les travaux jusqu'à Courtrai. On arrive là-bas, on reçoit des messages de haine de la marque en disant que si vous n'êtes pas là dans 5 minutes, il est disqualifié d'office.
Wow.
Donc voilà, il se met une pression.
Vilain.
Donc, on descend de la voiture, il descend, mais vraiment direct. Il passe derrière le bar, il passe devant les jurés. Et là, au bout de 2 minutes, là, il y a une des jurés qui s'appelle Anna qui lui dit, en fait, mec, arrête parce qu'on comprend rien à ce que tu dis.
Bah, j'avais un anglais très approximatif à l'époque.
Donc, il parle pas un mot d'anglais. Il
ouais,
a jamais
ça.
Fait d'anglais. Et il essaye
ça.
De se lancer en anglais puisque forcément, on est dans le milieu néerlandophone.
Ouais, ouais.
Et il se fait éclater, quoi. Vraiment. Et donc, moi, je tremble pour lui. Je me dis, mon Dieu, tout ça pour ça. Et pour finir, gentiment, en fait, ils disent que tous les trois parlent français. Donc, il y a un juré français, un juré néerlandophone qui travaille à l'époque pour De Morgan, je pense, et une jurée flamande qui parle aussi, heureusement, français. Et donc, il fait son cocktail en français. Là, il réussit. Ils sont tous charmés par son charme naturel et son cocktail. Et puis, il passe dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, quand il va présenter son cocktail, eh ben, d'abord, ils vont recommander. Donc, on a bien compris que ça marchait bien. Mmh. Et puis, en plus de ça, à la fin, quand ils vont annoncer qu'il a gagné le concours, lui, comme il l'annonce en anglais, il réagit pas, quoi. Donc, il part.
Je savais pas que j'avais gagné. Voilà.
Ça, c'est vrai. C'est vraiment la première étape, je pense, de ce qui va, en fait, changer quelque chose, parce qu'on a un francophone wallon qui va remporter un concours. Et donc, en fait, ça va nous donner un peu de poids mm-hmm. avec cette caravane. Ça va nous donner un peu de légitimité, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Ça vous rend, entre guillemets, professionnel, quoi, d'avoir
Exactement.
ce concours.
Ça. Donc, du coup, vraiment, là, on commence à être pris un peu plus au sérieux, mm-hmm. malgré notre manque de sérieux. Et on commence à se développer vraiment sur la scène. On commence à avoir des interactions avec les marques. Et c'est là que vraiment le projet de Botanical se construit.
Ouais. Oui, et comment ça s'est construit au fur et à mesure? Parce que au fil du temps, vous avez aussi fait des plus gros événements. Enfin, moi, je me souviens, en 2017, j'avais découvert le bar aux Ardentes.
Ouais,
et,
c'est très bien.
Mais oui, c'est ça. Tout ça, ça crée une visibilité quand même énorme.
C'est ça, ouais.
Donc, du coup, là, c'est pareil. C'est en fait des distributeurs, le festival, je pense, en plus, les Ardentes qui nous avaient contactés à l'époque. Parce que justement, on va bouger. Donc, on continue ces contrats pour des cavistes, etc. Mmh. Donc, les parkings, les machins. Mais comme je disais tout à l'heure, on fait des liens. Au final, on va faire des rencontres. Valentin a un peu plus de poids puisque, du coup, on va gagner, enfin, il va gagner Mary White Competition. Puis, je pense qu'il y a un autre concours qui va s'enchaîner très vite.
Clairin, où je gagne aussi pour la Belgique, le championnat du monde à Haïti.
Voilà. Donc, du coup, tu sais, c'est...
Juste après Mary White.
Ah ouais, excellent.
Donc, ça, c'est deux concours et un peu de presse. Les Ardentes nous contactent en disant, ben voilà, on a une nouvelle façon de voir le festival avec un endroit un peu plus food, un peu plus drink, qui s'appelait Wallonia Park, un truc comme ça. Wallifornia Park.
Wallifornia Park, ouais.
Et donc, ils sont en train de développer ça. Nous, on est à fond dedans. Donc, du coup, là, on va commencer, en fait, à avoir des super belles opportunités, des gros contrats. Après, les Ardentes, c'est quand même... 1200 à 1400 cocktails par jour, je pense, dans une caravane.
Et
donc,
à l'époque, on était plus ou moins tout seul pour le faire. C'était de la violence.
C'était de la violence pure. Mais voilà, comme tu vois, toi, tu nous as rencontrés là-bas. Mmh. Il y a plein de gens qui viennent encore au bar en disant « Mon Dieu, j'ai bu un cocktail, avoue que j'ai adoré en 2017 aux Ardentes. » Et ça nous fait trop plaisir parce que voilà, tout ça, c'est vraiment le moment charnière, quoi.
Et en plus, c'est un tout parce que y a les cocktails, il y a aussi votre histoire à vous deux, il y a toute l'esthétique autour de Botanical et d'Alphonse à ce moment-là. Et en fait, ça aussi, ça crée un peu la magie et l'envie de vous suivre, quoi. Est-ce que vous vous en rendez compte à ce moment-là?
Pas du tout. Voilà, à ce moment-là, on est vraiment juste la tête dans le guidon. Ouais. On improvise nos événements. On n'a pas vraiment de. Avant d'avoir Botanical, on n'a pas vraiment de lieu pour préparer tout ça. Donc voilà, je compte pas les événements où on se retrouve toute la nuit dans la cuisine avec des casseroles, à faire des sirops, mm-hmm. des trucs. Donc là, vraiment, on est dans le rush et dans le manque de logistique pour pouvoir lancer tout ça.
Au niveau esthétique, par contre, là, je me rends bien compte qu'au final, Valentin, ce qu'il envoie, c'est assez ouf. Les équilibres sont toujours là. Ça donne envie de faire des photos. C'est des choses qu'on a envie de partager. Mm-hmm. Et donc là, je me rends bien compte qu'en fait, ce qu'il est en train de produire, qu'il est vachement doué, quoi. Mm-hmm.
T'es gentil bébé, c'est la première fois que tu me le dis.
C'est parce qu'on nous enregistre.
Ah, c'est gentil.
Et du coup, comment ça devient un bar vraiment physique?
On en rêve depuis le début, comme je te disais, on rêvait d'avoir un vrai bar avec des murs, un toit, etc. Et on prend un peu l'eau avec Alphonse. Donc du coup, ça reste ce projet. Chaque fois qu'on voit des choses à louer, on y pense, on regarde. Donc voilà, et puis parce que du coup, on a... Tous les petits sous qu'on a eus, que ce soit les Ardentes qu'on a fait 2-3 fois, je pense, avant d'avoir le Bota, tous les petits contrats, etc., à chaque fois, on garde tout précieusement pour justement ne pas devoir réitérer l'expérience des banques. Et donc, on cherche un endroit, on cherche un shithole, quoi. On cherche un endroit que personne ne veut, mm-hmm. un endroit qui coûte pas cher, un endroit qui est délabré, pour avoir justement l'opportunité
Hanté,
de faire un peu...
de préférence.
Pouvoir faire ce qu'on veut et sans justement... en étant autonome financièrement. Donc, c'est comme ça qu'on va tomber sur le Botanical qui s'appelle le Bailly.
Le Bailly, lieu extraordinaire où la magie opérait.
Voilà. Je sais pas si tu vois, il y a beaucoup de design comme ça à Namur dans des vieux cafés. Par exemple, comme dans le fond de la taverne alsacienne, tu vois encore les anciennes poutres brunes mm-hmm. avec le faux plafond, etc. Ce côté vraiment taverne, en fait, un peu chalet alsacien. Le Bailly, c'est comme ça. C'est 45 remorques de déchets, avant de pouvoir rentrer dans le bar. C'est un ancien bingo, c'est des sirops qui sont périmés en 1992.
Ça, une odeur d'urine et de bière.
C'est rien que carrelage. C'est un énorme bar en béton, en plein milieu, en béton armé. c'est un endroit mais qui pue la rage et, et donc voilà, on va, tous nos efforts ça va d'abord être de vider l'endroit, mais personne n'en veut, il est alloué depuis super longtemps dans cette rue, bah, c'est pas ouf, à part évidemment Vino Vino de Marc qu'on salue, qui est incroyable. Il y a l'arrière du Prince qui est un bar et Dominique de du Temps des Cerises qui sont des endroits.
C'est pas vrai, elle a mangé?
Non, elle l'a pas mangé, je crois.
Je suis désolée.
Merci Margot d'avoir dit que c'était là manger les câbles en dessous de nous.
Mais
elle qui est si sage.
En fait, je crois qu'elle aime bien l'étiquette qui est.
Ah oui, ok, je vais manger l'étiquette, pas le câble.
Bah, tu peux peut-être lui donner ça.
Ça le stresse, à mon avis.
C'est parce qu'elle aime pas être entendue comme ça.
Ouais, t'étais en train d'expliquer.
Mais voilà, que le Botas était. Bah, que dans cette rue, il n'y avait pas grand-chose, que personne ne veut vraiment être dans cette rue-là. Nos parents nous crient au scandale en disant que personne n'ira plus loin que la place du Vieux. Et les établissements que j'ai cités, qui sont incroyables, sont des établissements, il n'y a rien à faire, qui sont d'une autre génération. Mm-hmm. Nous, on a à ce moment-là 28 et 24.
Un truc du genre.
Et donc du coup, voilà, c'est pas du tout notre génération de s'établir dans la rue des Brasseurs. Et donc du coup, on va signer un bail avec 20 euros dans notre poche. Donc ça, c'est encore du coup de Valentin, parce que moi, j'en parle que maintenant. Il y a que maintenant que je libère ma parole par rapport à ça, parce que moi, j'étais de nouveau dans ce truc de d'être gênée, de pas oser, alors que lui, il se lance, il y va.
Ouais.
Parce qu'on a deux personnalités très différentes. Et donc du coup, en fait, on va signer et directement après, on apprend que la ville de Namur est en train de dynamiser le bas de la ville. Et donc, en fait, ils mettent des aides à personne qui va prendre un lieu là-bas.
Ouais, c'est ça. Donc, l'idée c'était de la ville de Namur, c'est de redynamiser des quartiers qui avaient été un petit peu désertés, en fait, par les commerces ou qui ne possédaient pas énormément de commerces. Et puis, on va dire vraiment la rue des Brasseurs, c'est une rue qui est pas du tout loin du centre-ville. On est juste sur le bas de la ville, hein. Donc, on profite de cette aide, gracieusement offerte par la ville de Namur. On profite aussi de petits budgets que des marques, justement, qui veulent nous suivre, des marques de spiritueux, acceptent de mettre dans du matériel, dans des petits éléments dont on a besoin. Et de là, en deux temps, trois mouvements et très, très peu de budget, on lance Botanical.
Trop bien.
Pas en grande pompe, mais on le lance.
Et ça a pris combien de temps? Le temps de faire tous les travaux, de tout aménager?
7, voilà. 8 selon les organisateurs, 7 selon la police.
Ouais. Et comment vous vous sentez quand ça y est, c'est l'ouverture, quoi?
Ah, mais j'ai plus envie d'être là, moi j'ai envie de rentrer, faire une sieste.
Là, on voyait plus le Botanical comme un endroit où pleurer et pas vraiment un endroit pour travailler. Vraiment, c'était l'endroit où les rêves venaient s'effondrer avant qu'il ouvre. C'était terrible.
Donc le jour même, il y a encore des travaux, on vient poser la table.
Charlie jette dehors les ouvriers avec un balai.
C'est la vérité. Et donc du coup, ouais, c'est très compliqué. Ça fait 7 mois qu'on est en travaux, on fait tout nous-mêmes. On a tous les potes qui viennent avec des bacs de bière, mais en général, ça tourne plus en fait qu'en construction. Donc Valentin a à peine le temps de sortir sa carte, enfin voilà. Et donc du coup, il y a quand même pas mal de gens qui viennent puisqu'on fait un soft opening, donc ça se passe assez bien et on arrive un peu à se déstresser et on voit que voilà, ça plaît. Mais il faut se dire quand même que là, on est en 2018, qu'un bar à cocktail sans bière, sans vin, en 2018, c'est pas gagné d'avance. On a des gros glaçons, enfin, puisque du coup, ça c'était un peu le problème des bars à cocktail, que les gens comprennent qu'on a besoin de glace et de ce type-là. Et alors du coup, pas de soda, quoi. Des sodas
pas
maison.
Soda, pas de bière, pas de vin.
Ouais, donc ça, tout ça, c'est pas gagné d'avance.
Et est-ce que vous vous disiez que Namur, c'était le bon endroit pour lancer ça?
Pas du tout.
Moi, c'est parce que c'est un endroit où je suis né, où ma famille est depuis
parce qu'on vient d'ici, on voulait pas aller ailleurs, quoi. Donc, ça avait du sens de faire ça chez nous.
On n'aurait pas su le faire ailleurs, de toute façon.
Mm-hmm. Et ouais, voilà, déjà, au niveau budget, on n'aurait pas pu le faire ailleurs. Et on était sûr d'avoir au moins une praticité. Clientèle. On a tous nos potes qui sont un peu alcooliques.
Donc, qui allaient ça aide.
Merci la Belgique.
Voilà, qui allaient venir de toute façon consommer chez nous. Donc voilà, on comptait aussi là-dessus. Et puisque nous, à ce moment-là, on vit Place du Vieux. Hein. Donc on habite au-dessus de la future cantina à ce moment-là. Donc il y a pas de moyen pour aller ailleurs, il y a pas on se pose même pas trop la question au final, on se dit on va faire ça chez nous, on va faire ça à moindre moyen et on va faire un business plan avec 25 à 30 cocktails par jour avec une personne qui est toujours là qui s'appelle Jérôme qui va venir juste nous donner un coup de main le week-end. Ça, c'est le business plan de base, quoi. Mm-hmm. Travailler à deux, avoir de l'aide. Et donc, on prend une quatrième personne, Jabot, pour nous aider juste pour les deux premiers soirs, du lancement. Et pour finir, en fait, on va rester à quatre tout le temps.
Et à ce moment-là, vous êtes déjà tous les deux à temps plein sur ce projet ?
Oui, oui. Ouais. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai très vite perdu mon emploi à la cuve à bière, ouais. Deux ans avant ou un an et demi avant.
Restructuration, parce que, oui,
parce que voilà, il n'y avait plus de sous. Ah, oui. Et Charlie, elle faisait quelques petites missions de temps à autre, mais vraiment, à partir du moment où on commence les travaux, enfin les trucs, on n'a plus de travail du tout. Donc, on est vraiment axé uniquement là-dessus. Et quand on se lance à Botanical, c'est entièrement corps et âme, on n'a plus du tout d'autres activités.
Le pays se met en personne physique, moi je me mets en aide indépendante.
Ah ouais.
Et donc il faut qu'on puisse au moins payer notre loyer. On a un tout petit loyer, Place du Vieux, 2018, c'est encore des petites choses, des petits budgets. On n'a pas de voiture, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de prêt. Mm-hmm. Et donc du coup tout ça est totalement jouable, quoi.
Ah ouais, mais vous aviez quand même cette crainte, malgré le fait que voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, mais il y a quand même la crainte non. que...
Moi, j'étais terrorisée, mais lui, non. pas.
Moi, je pense que dans ce genre de secteur ou n'importe quelle activité, quand tu te lances, il ne faut pas vraiment avoir peur, mm-hmm. parce que la peur va juste engendrer un sentiment de panique, ouais. en plus de situations que tu dois gérer de toute façon. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de paniquer. Ça sera encore plus compliqué de pouvoir gérer tous les obstacles qui vont s'offrir à toi. Mmh. Donc je pense que tous les papiers que tu reçois, que toutes les choses que tu as gérées, que tous les contacts humains, mauvais ou bons, que toutes les challenges, bons ou mauvais également qui s'offrent à toi, ne nécessite pas forcément la panique, tout ça est totalement virtuel mmh. dans la réalité.
Donc ça fait un bon équilibre à deux, quoi.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, en fait, vous êtes vachement complémentaires parce que tu le disais, toi, t'as poussé Valentin pour ce concours où t'étais là, bah, vas-y, maintenant tu te lances. Et d'un autre côté, toi, t'as moins de crainte que Charlie, du coup ça doit vous aider en fait d'être à deux dans ce projet.
Ah ouais, mais tout est équilibré, hein. Moi je vais jamais travailler sur ces plates-bandes, lui non plus, tout est divisé, on fait rien l'un sans l'autre.
On dort pas dans le même lit.
Ah, j'espère.
Je tiens à le préciser pour les gens qui nous écoutent.
Oh, Valentin, si ça pouvait être vrai, tellement tu ronfles. Donc du coup, ça, c'est vraiment l'équilibre entre l'angoisse, le stress, mais en même temps, moi qui suis, voilà, je suis beaucoup plus admin. Et puis après, moi, je crois énormément à tout ce qu'il fait. Donc moi, je vais toujours porter le projet. Je vais toujours l'emmener loin. Je vais un peu nous vendre au final aussi. Et Valentin qui est qui est un peu écervelé et qui est très créatif.
Merci, Bébé. Je t'aime.
Avec plaisir.
Et vous sentiez que vous deviez le faire à deux? Parce que voilà, déjà, entreprendre, c'est pas toujours évident. Entreprendre en couple, c'est aussi autre chose, quoi.
Mais on s'est entraînés. Il y avait, je sais pas si tu te souviens, avant, à la Confluence, il y avait, comment est-ce que ça s'appelait, où on travaillait, j'ai oublié. C'était une espèce de brasserie éphémère
l'été.
Tu te souviens pas? Ouais. Il y a très longtemps, genre 2016, 2017. Donc ouais, là, on avait déjà Alphonse, la caravane.
Ouais, et on travaillait là tous les deux, et elle était au bar. Et moi, j'étais serveur en salle.
Moi, je faisais des rhum coca, des gin tonic. Et lui, il était en salle, mais
excellent.
C'est vraiment, tu sais, là où maintenant il y a la Confluence, le restaurant. Et donc, c'était des terrasses éphémères pendant l'été. Il y avait des barbecues le dimanche. Et, enfin, ça te dit rien, tu vois pas, avec plein
mais
de petits drapeaux.
Mais j'étais pas de Namur, moi. Ah, bah, voilà. Ça fait quelques années que je suis ici. Mais...
Ah, bah, donc, du coup, nous, on s'est entraînés un été. Donc, on a fait, je pense, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On était engagés tous les deux. Et le but, c'était de savoir si... Parce que du coup, moi, je voulais vraiment prévoir.
Ah, ouais, ouais.
Savoir si on était capable de travailler ensemble.
Mm-hmm. Et la réponse est non.
Mais on l'a quand même fait.
C'était un drame.
Non, ça s'est bien passé.
Oui, bah, en fait, ça, c'est un soutien aussi, par contre. Il y a des difficultés, mais c'est un soutien constant, en fait, d'être à deux dans ce projet. Et vous connaissez les réalités de l'autre, quoi.
Ouais. Par contre, il faut mettre des règles. Donc, il y a quelques années d'ici, ben, voilà, on essaye de s'y tenir. Mais il y a la réalité de l'horeca, hein, qui est un sujet totalement différent d'aujourd'hui, dont on pourrait parler pendant des heures, qui, à un moment donné, fait en sorte qu'il faut vraiment pouvoir mettre des barrières. Sinon, à 22h ou à 23h, si... Un jour, on a un jour de congé le soir. Je pourrais lui demander s'il a payé la TVA, s'il a payé le NSS. Mmh. Lui étant répondu à ce mail-là, blablabla. Et donc, en fait, en tant que couple, faut savoir à un moment donné se taire et se dire, en fait, la question, elle peut attendre demain. Voilà. Mais tout ça, c'est un travail quotidien. C'est pas des choses qui sont encore effectives. C'est des choses auxquelles nous, on se rend vraiment compte de la nécessité de le faire. Mais voilà, on n'est pas parfait, quoi. Mmh.
Oui, mais tu parlais des difficultés de l'horeca. J'ai reçu récemment Stéphane Jacobs, donc le chef du restaurant, ouais. Hors Champ, Et lui, il dénonçait un peu toutes les difficultés face auxquelles il fait face.
Ne me lance pas parce que sinon je vais crier dans le micro.
Comme on a dit, c'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures parce que la réalité de l'ORECA aujourd'hui, c'est que l'ORECA est en train de mourir tout doucement. Mm-hmm. Ça, c'est la réalité de l'ORECA.
Nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu, comment expliquer ? C'est un peu ce que tu imagines quand tu vois l'Orient Express, tu vois, et que tu vois ces gens qui mangent sur des nappes blanches avec des magnifiques couverts de l'argenterie, avec des menus 5 services et qui dorment sur place. Et donc, et tout ce que maintenant tu ne peux plus te permettre, puisque du coup, c'était quand même ouvert à la bourgeoisie. Là, maintenant, nous, ce qu'on est en train d'offrir, c'est un service qui est voué à disparaître. Nous, ce qu'on est en train d'offrir, c'est une parenthèse de ce qui est d'office en mourance, quoi. Mm-hmm. Donc,
en mourance.
Ouais.
Ça se dit ?
Non, mais je trouve ça joli.
Super.
C'est beau, non ? Ça fait un peu poétique.
Ouais, super.
Donc, ouais, je peux changer si tu veux. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai dit ?
Non, c'est bien la mourance. Okay, écoute, l'agonie, tout ça.
En agonie, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais, donc c'est un secteur qui, comme ma chère compagne l'a précisé, est en mourance.
Je suis ta femme.
Voilà. Ah, c'est vrai. et voilà, c'est des choses qui sont très compliquées au quotidien, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pression permanente.
Et puis savoir aussi saigner, parce que je te dis au début, là, quand on a cette caravane, quand on a le début du bota, mm-hmm. on a juste nos trucs à payer, c'est-à-dire notre appart, nos machins, etc. Et on y arrive. C'est-à-dire que des années plus tard, avec deux caravanes, un système de consultance, un service qui est quand même assez... actif, puisqu'on s'est diversifié. On a quand même deux établissements. On a le Botanical, on a l'Icorette. Mmh. On a quand même pas mal de demandes à l'étranger, etc. Et malgré tout ça, on est moins confortable que quand on a commencé et qu'on habitait Place du Vieux. Et on a toujours pas de voiture et on a toujours on a toujours pas d'enfants, on est toujours en location et pourtant on est incapable de sortir un centime. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que si un jour tu veux nous rappeler pour faire un podcast uniquement là-dessus, t'inquiète pas qu'on peut faire des heures de... Je peux dénoncer et inviter tout le monde à aller dans la rue.
Mais retournons sur cette belle histoire. C'était les débuts de Botanical. Bonjour chers auditeurs.
Voilà, c'était la pub.
Vraie histoire de joie et de plaisir. Nous recommençons tout de suite.
Mais juste, et après on passe à autre chose. Par contre, tu communiques sur ça, sur vos réseaux sociaux aussi. C'est important de montrer aux gens, voilà, on remporte plein de concours, ça marche, on ouvre un deuxième établissement, etc. Mais en fait, voilà aussi notre réalité, quoi. Je trouve ça important que vous...
Mais c'est très nouveau. C'est très nouveau parce que, de nouveau, tu te rappelles quand je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait demandé aux banques de nous soutenir pour notre premier bar, ouais. Et donc qu'on nous avait un peu rigolé au nez. Eh ben, j'avais ce sentiment d'humiliation, de non-réussite. Et donc, du coup, pour moi, c'était time, c'était fini. Eh ben, du coup, c'est un peu ça. Je me dis, au final, quand tu vois les gens qui font de l'ORECA depuis des années, pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Avec des bars où, vendredi et samedi, on passe notre temps à refuser. Mm-hmm. Donc, c'est qu'on fait quelque chose de mal. Et donc, dans ce sentiment de « je fais quelque chose de mal », je suis humiliée, je suis honteuse. J'ai honte de dire, au final, aux gens « regardez tout ce qu'on fait et on n'y arrive pas ». Et donc, il y a l'autre facteur, il y a aussi les réseaux sociaux, dans le sens où, tu mets que des trucs positifs, mm-hmm. des trucs qui sont très chouettes. Bon, après, on n'a pas des réseaux sociaux où on ment, hein, c'est que du spontané, donc c'est des choses qu'on a envie de partager. Mais quelle est la place dans le fait que, oui, venez, regardez ce que Valentin fait, regardez les cocktails de ouf qu'on vous propose. Et en même temps, est-ce que j'ai le droit de vous dire que derrière, nous, on n'a rien ? Est-ce que c'est vendeur ? Est-ce que ça l'est pas ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous intéresse pas ? Et donc ça, c'est très nouveau maintenant. J'ai décidé de... Mais parce que du coup, tout le monde prend la parole. Tu parlais de Stéphane Jacob. Il y a Pia. Il y a eu une investigation spéciale la semaine passée de l'RTBF sur notre situation dans l'ORECA. Et donc du coup, maintenant, j'essaie vraiment d'avoir un peu de place, mais la réalité est visible. On va faire un post où il y a quelque chose de positif, et tu vas avoir pas mal d'engouement, des gens qui vont envoyer des messages privés, etc.
Ouais.
Et alors du coup, quand tu dis en fait que t'avoues que t'as un demi-salaire pour deux depuis 2 ans et que tu t'as pas une thune, et non. Ou alors ça va froisser les gens en disant oui, mais on vous voit partir tout le temps à l'étranger, alors que ça c'est vraiment... Toi, t'es engagé pour partir à l'étranger. On te paye tout, tes trajets, t'es en hôtel, mais tu rentres, ton frigo, il est vide.
Ouais, c'est ça.
T'as pas de rémunération derrière. Mmh. Et donc, du coup, ça engage vraiment une parole différente et très peu d'engouement. Mais donc, voilà, maintenant, j'essaie vraiment de faire de la place et de justement de pas avoir ce sentiment d'humiliation. Dire, voilà, ça, c'est la réalité. Mmh. Voilà ce qui se passe. Et rendez-vous compte, quoi.
Ouais, c'est trop bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à faire ce premier poste?
Mais du coup, parce que je supporte très mal l'injustice, tu vois, là, je parle de plus en plus vite, j'ai envie de monter au front.
Le podcast est foutu. Hein,
ça me rend un peu dingue. Et donc, du coup, il y avait plein de fois où je faisais des textes par rapport à ça, parce que j'aime bien écrire, et Valentin me disait, bah oui, c'est trop bien, c'est trop chouette et tout, mais il va falloir trouver un contexte où tu peux en parler, tu vas pas mettre ça sur notre page alors qu'on a déjà plein de choses à dire, mm-hmm. et qu'au final, il faut ramener des gens et pas, justement, qu'ils nous prennent pour des petits loulous qui se plaignent, en fait.
Ouais.
Et donc voilà, j'en parle parce que j'ai besoin d'en parler, que je déborde de toute façon, donc ça prend quand même de la place.
Ben oui, et pour les réseaux sociaux, ben on en parlait tout à l'heure, c'est il y a tout un storytelling aussi derrière Botanical et on sait que c'est vous et en fait tu partages comme ça plein de chouettes trucs et on a l'impression limite de vous connaître un peu à travers ce projet. C'était important pour vous de montrer que ben il y a des humains derrière.
Mais pas vraiment, c'était vraiment c'était totalement pas réfléchi et totalement spontané. Et donc, du coup, cette petite caravane, en fait, c'est elle qui va... C'est pour ça que tout est by Alphonse. C'est parce que cette petite caravane s'appelle Alphonse. Et en fait, comme on va être sur les parkings avec Alphonse, qu'on va être chez les cavistes avec Alphonse, que Valentin va préparer des preps pour Alphonse, et ben petit à petit, ben, on va le personnifier. On se dit pas, bah tiens, demain, je prends la caravane. Demain, on prend Alphonse. Et donc, cette personnification fait en sorte qu'on a envie... J'ai envie de parler d'Alphonse. Mm-hmm. Donc, on va avoir un... Je vais créer un blog à l'époque.
À côté un peu schizophrène, comme ça.
Ouais. Et donc, du coup, je vais parler de ce qu'en fait la caravane propose en le prenant vraiment comme une personne à part entière. Et de là, ben, en fait, je me rends compte que j'aime bien partager nos petites aventures, de savoir qu'on était dans les Ardennes, qu'on était en Flandre, qu'on a fait ça. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est les petits moments vraiment où moi, ça me fait du bien, en fait. Voilà, d'avoir des petits moments de parenthèse, d'écriture. Et donc, en fait, c'est le premier Instagram de la caravane va être un peu comme ça, puisque du coup, ça va être des bouts et des extraits de ce qu'il y a sur le blog. Et donc, en fait, tout naturellement, Botanical, Licorette, tout suit la même chose, puisque c'est toujours moi, nous, derrière, quoi.
Mmh. Ouais, pourquoi Licorette ? Comment c'est né, cette envie-là ?
À toi, tu peux parler maintenant.
Ah, j'ai le droit.
Ouais, ne me regarde si pas comme ça, non, tu me gênes.
Non, tu peux parler de Licorette si tu veux.
Non, vas-y, j'aime bien entendre ta voix. Vas-y.
C'est vrai. Du coup, Licorette, c'est né comment ? C'est né simplement du fait que Botanical est très compliqué, qui nécessite beaucoup de mise en place, qu'on utilise des processus qui sont, comme j'ai déjà précisé, dans la complication, dans les extractions, dans l'utilisation de matériel avec des processus très longs. Et Licorette, en fait, on a envie de faire quelque chose qui était super simple, parce que en dehors de Botanical, quand on sort, on mange des choses simples. On boit quasiment pas de cocktail, on boit beaucoup de vin, beaucoup de pils.
Parle pour toi.
Et ouais. Bon, après, Charlotte, j'ai quelques souvenirs de toi, debout sur les tables. Enfin, bref. On aime en fait les choses très simples et on aime les partager. Et en fait, on s'est dit pourquoi on créerait pas un lieu en fait, qui est un peu un lieu de vie, un lieu qui reflète en fait cette simplicité, cette cuisine de partage, c'est presque ce côté où on invite des gens à la maison en fait. On avait vraiment envie de se dire ce qu'on adore recevoir. On faisait beaucoup de très grands dîners à l'époque en utilisant l'argent qu'on n'avait pas pour offrir à manger, à boire à nos amis. Et on avait envie de faire ça et de pas d'offrir hein, parce que voilà, comme on l'a précisé, la situation n'est pas toujours au beau fixe, mais de proposer en fait cette cuisine de partage, ces petits verres de vin nature, ces petites pils, et pouvoir dire est-ce qu'on pourrait en fait faire un lieu comme ça, un lieu qui ressemble en fait à notre simplicité, à notre plaisir en fait, à nous.
Parce que Valentin fait des colères à Namur parce que soit il mange un durum, soit il mange tout de suite dans un restaurant ou dans une brasserie, mais qui va être, tu sais, tu vas à deux dans une brasserie, tu prends un apéritif, deux plats t'en as vite pour 110-120 euros, et donc du coup il faisait des crises, donc il s'est un peu créé Licorette pour lui, pour pouvoir manger comme dans un bistrot en France ou dans un pub en Angleterre où tu as fini ta journée de travail et tu peux aller manger un truc simple, efficace, boire un verre de vin, voir tes potes, rentrer chez toi et en avoir pour une toute petite addition.
Mm-hmm. C'est surtout aussi du coup dans l'idée du bistrot français, comme elle précise, c'est que quand on a commencé vraiment à travailler à l'étranger, on va dire vers 2020, ça fait vraiment 3-4 ans là qu'on travaille vraiment beaucoup à l'étranger, et particulièrement à Paris. Et en fait, les premières fois on se retrouve à Paris, on se retrouve dans des petits bistrots où tu manges une bavette au poivre, salade, frites à volonté à 12-13 euros. Et si tu la manges debout au comptoir, c'est neuf. et avec le ballon de rouge et tu
sens l'excitation dans ta voix,
Valentin. C'est super excitant. et en fait tu dis waouh, en fait ça existe, c'est possible en fait. Et on trouve ça vraiment fascinant. On écume les bistrots, les bouillons, on écume les petites adresses, les petites brasseries, et vraiment on est fasciné en fait par ce monde-là, ce monde vivant où les gens crient, les gens boivent, les gens s'asseyent à 17h et partent à minuit, 1h du matin, et on dit en fait c'est formidable parce qu'on perd un peu plus chaque année, hein, cette culture bistrot en Belgique, de cette culture des bars de village, de ces petits estaminets de quartier où tu manges un spaghetti bolo ou un croque-monsieur à moins de 10 euros, où tu vas prendre une bière, une petite pils locale pour 1,70€, 1,80€, tout ça, ça disparaît réellement sous nos yeux aujourd'hui. Et quand tu vas en France, dans beaucoup de petits patelins ou trucs, c'est fascinant en fait. C'est fascinant de dire qu'en fait les gens vivent encore en dehors de chez eux.
Mm-hmm. Quand vous voyagez comme ça, à chaque fois, vous avez des inspirations pour vos projets ?
Ouais.
C'est que ça, ouais.
Que ça,
ouais.
Malheureusement. C'est terrible.
Et ouais, et toi, justement, pour les cartes éphémères, qu'est-ce qui t'inspire ? Et en fait, est-ce que tu as toujours des nouvelles idées ?
On a toujours des nouvelles idées.
Tu peux dire toi. Hein.
J'ai toujours des mauvaises idées, mais voilà, je ne suis pas tout seul non plus, on travaille en équipe. Mais le fait est qu'en s'ouvrant, en fait, en ouvrant Botanical et en s'ouvrant au monde, c'est vraiment ça qui est arrivé, parce que moi je viens d'une petite famille namuroise qui n'a pas beaucoup bougé et qui aime rester à la maison. Quand je m'ouvre réellement au monde avec Charlie, cette femme extraordinaire qui est à mes côtés depuis maintenant 10 ans, premier voyage, j'ai pris la première fois l'avion. J'ai pris la première fois l'avion, j'avais 22
quand
ans.
Quand j'ai rencontré Valentin, donc il m'a menti sur son âge. D'abord, il faut quand même dire qu'il m'a dit qu'il avait 23 ans et que donc il en avait 21, parce que moi j'avais 26 ans. Je rentrais de voyage d'Australie. Et donc, moi je pensais qu'il sortait un peu avec moi, qu'il m'avait dragué parce que je revenais de voyage et que j'avais quand même pas mal baroudé avant. Donc je pensais que c'était un peu ça, que ça faisait partie de mon sex-appeal, alors que pas du tout, il s'en foutait complètement, il m'a à peine écouté.
J'étais fascinée par son corps de rêve.
Oui, bien sûr, ouais. Et donc du coup, en fait, je lui ai donné une map monde un soir, et je lui ai dit, fais tourner la map monde, et tu me dis, où est-ce que tu rêves de voyager, ce truc-là. Et Valentin m'a montré Orchimon en Ardennes.
Un endroit extraordinaire.
Et il m'a dit,
le bleu et au palmier.
Il m'a dit, moi, j'irai jamais plus loin que là-bas, parce que je m'en fous, et j'ai pas besoin d'aller plus loin, et je parlerai jamais d'autres langues.
Enfin bref, Charlotte, voilà. Je vais raconter une histoire, tu m'interromps brutalement.
Oui, non, mais c'est parce qu'il faut qu'on se rende compte de qui tu es, cette personne merveilleuse qui arrive à changer.
Je suis un cancer.
Vas-y.
Donc, avant que Charlotte nous interrompe vulgairement, on s'est ouvert au monde, enfin, je me suis ouvert au monde, on a commencé à... Enfin, Botanical a bien fonctionné, j'ai gagné 2 autres compétitions sur 1 an et demi après l'ouverture, on a gagné un prix chez Comilo, meilleur bar à cocktail. Et puis, en fait, là, on commence à travailler pour des marques, on commence à travailler à l'étranger, on va travailler à New York. C'est incroyable, hein, quel monde virtuel incroyable. On va travailler à New York, on va travailler dans les Caraïbes, on va travailler beaucoup en France, on va travailler en Italie, on va travailler en Angleterre. Enfin, je veux dire, c'est tout d'un coup, en fait, on passe de rien à tout ça. Mm-hmm. Et en fait, toutes ces expériences, en fait, je m'en nourris réellement. Et on va vraiment travailler sur tous ces produits en fait qu'on découvre, dont on remplit nos valises, parfois illégalement, pour revenir chez nous et préparer toutes ces boissons. Et en fait, l'idée c'est que Botanical est un peu le reflet en fait de cette ouverture au monde que nous avons suivi, toujours évidemment sur la botanique, sur les herbes, sur le monde qui nous entoure, végétal. Et en fait, en s'inspirant de tout ça, en se nourrissant de tout ça, en fait, Botanical grandit petit à petit et fait de mieux en mieux. On apprend aussi énormément. Tantôt on précisait du coup pour la première compétition, un des juges qui est devenu un vrai ami aujourd'hui, qui s'appelle Rémi Savage. Rémi Savage, c'est un grand personnage au monde des cocktails, un grand troubadour également aussi, qui à l'époque en fait et toujours aujourd'hui reflète vraiment cette technique, ce goût dans les boissons. Il a ouvert plusieurs établissements ces dernières années, un qui est sur l'Art Nouveau, un qui est sur le Boss, qui est sur l'art abstrait, et tout est fin, tout est beau, et c'est un grand technicien. C'est vraiment un grand technicien dans le monde du bar et des extractions, et on va travailler pour lui à Londres en 2019, en 2020, en plein confinement. On va travailler là-bas parce que, évidemment, là-bas, c'est pas vraiment confiné, ça ouvre, ça ferme, machin, donc on se retrouve là-bas. Et en fait, j'apprends énormément à son contact, et à notre retour en Belgique, on redéveloppe notre laboratoire pour vraiment faire quelque chose de beaucoup plus professionnel que ce qui était avant, parce qu'avant on avait vraiment un matériel qui était très limité, on travaillait sur le sous-vide et sur des cuissons à haute température, sur TAC et tout ça. Et en fait, là, on commence à travailler sur la distillation sous vide, on commence à travailler avec les ultrasons, on commence vraiment à arriver sur des techniques qui sont bien, bien, bien plus élevées que la connaissance qu'on avait de base. Et c'est grâce aussi à cet échange, justement, cette ouverture au monde, tous ces gens qu'on rencontre, dont on se nourrit. Et puis après, on a une facilité qui est extraordinaire, c'est qu'on est belge. Et je pense que être belge dans le monde aujourd'hui, c'est un super pouvoir. Parce qu'on a une simplicité, on a une sympathie aussi, on a une facilité sociale. C'est vrai, hein, vraiment, je veux dire, partout où j'étais dans le monde, on a toujours eu si facile en fait de pouvoir interagir avec les gens. Et ce super pouvoir en fait qu'on a depuis notre naissance nous a permis en fait d'aller vers les gens et de découvrir énormément de choses.
Excellent. Et c'est vraiment au contact comme ça des personnes que tu rencontres que tu te formes ou tu as suivi une formation classique
de base. Rien non, du formation tout. De base. Aucune. Je viens simplement, comme j'ai dit au départ, d'une famille où tout est fait maison. Ouais. Et j'ai toujours une facilité en fait à travailler en cuisine et à faire des tests, à me foirer, à trouver des choses. Et on a vraiment commencé sur rien. Et puis en étudiant, évidemment, en lisant des livres, tout ça. Je suis complètement autodidacte. J'ai vraiment pu apprendre. Et puis au contact d'autres gens, des gens qui sont beaucoup plus des techniciens, où on échange les uns avec les autres. Aujourd'hui, j'ai plein de copains à travers le monde où on s'envoie, ils nous envoient un mail. Ah tiens, c'est super, comment t'as fait ça? Ah, je donne ma fiche en disant pour le truc. Puis je vois, oh, trop génial, c'était ce goût-là et ce goût-là. Enfin bref, on se partage beaucoup de choses. En fait, c'est une toute petite communauté, le monde du bar. Il faut imaginer que c'est une communauté qui tout le monde se connaît, en fait. Peu importe où t'es, on est en permanence des contacts avec des gens de Berlin, avec des gens de Londres, avec des gens de New York. On a des copains qui sont en train d'ouvrir à New York, qui étaient à Barcelone avant. Enfin, on a des contacts avec des gens du monde entier en permanence et on se croise tous. Parce qu'il y a des conventions, un peu comme c'était une convention d'ingénieur informaticien, sauf que tout le monde est bourré et qu'il n'y a pas d'informaticien. Mais voilà, je veux dire, c'est des conventions qu'il y a partout dans le monde et on se rejoint tous, on fait la fête ensemble, on échange, on crée des projets. Et en fait, on est tous super connectés les uns avec les autres. Et c'est comme ça que le monde du bar évolue énormément.
Et quand tu es en train de créer comme ça et de tester des choses, de créer des recettes, comment tu te sens? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Ce qui se passe dans ma tête, c'est que disons j'ai un peu un trouble obsessionnel au niveau des goûts.
Je savais pas si ça allait le dire ou pas.
Voilà, j'ai vraiment un trouble obsessionnel par rapport à ça. Je suis vraiment obsédé par les goûts, les choses en général. Ça m'arrive, pour vous dire, de manger des choses que je trouve pourries dans mon frigo. Pas goûter, manger pas vraiment, mais goûter par curiosité de voir si ça goûte. Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que voilà, je veux dire, j'essaye de tous les jours goûter quelque chose de nouveau. Il n'y a rien que je n'aime pas aujourd'hui.
Mais donc du coup, si tu envoies par exemple 300, 400 drinks sur une soirée, s'il y en a un où il y a une goutte d'une macération, que sais-je, qui n'est pas à sa place, il va renvoyer le drink, il va aller le rechercher à table. Donc c'est de l'obsession, c'est comme s'il jouait sa vie sur chaque cocktail. Quoi.
Ah, ouais.
C'est l'obsession du goût.
Non, voilà. Donc, c'est comme ça que les cartes du Botanical se sont créées, c'est que vraiment, en fait, on pousse de plus en plus loin. Parfois, évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est un concept qui est tout à fait expérimental. On a sûrement des gens qu'on a perdus en cours de route par rapport à nos évolutions, c'est sûr, parce qu'on est commencé sur des cocktails qui étaient très simples, avec des jus pressés, des éléments comme ça. Aujourd'hui, on arrive à un bar qui est très minimaliste, avec des extractions, des clarifications, des cocktails qui sont très clairs, avec du goût. On travaille sur des textures qui sont différentes. On a complètement, en fait, on s'est un peu perdu sur la route. On s'est retrouvé à travers d'autres choses. Et c'est parce qu'on est parti de rien et aujourd'hui on est arrivé à quelque chose d'abouti, tout en restant dans quelque chose d'expérimental où on recherche, on fait une recherche permanente. Et c'était un méandre, c'était pas une route, c'était plus un méandre de recherche et d'évolution personnelle aussi.
Il y a des gens, tu sais, qui viennent chercher un cocktail et qui ont envie d'avoir ce côté esthétique avec un petit jardin botanique, des fleurs, mousses, etc. Ce qu'on faisait fort au début, puisque c'était aussi à un moment donné la traîne, c'est qu'on la suivait et qu'on est forcément influencé par tout ce qui se fait. Et donc là, forcément, quand tu arrives maintenant où tu as un cocktail qui est parfaitement translucide, sans garniture, avec un bloc de glace et où esthétiquement pour certaines personnes il se passe rien, alors que pour nous c'est un travail de ouf d'avoir réussi à avoir quelque chose qui est translucide et justement très très minimaliste, et que tout est sur le goût justement, bah forcément tu perds des gens en route, mais voilà, comme je disais aussi, c'est notre terrain de jeu et on expérimente, on se fait plaisir et donc on sait où on va, quoi.
Et est-ce que votre public, de manière générale, il est conscientisé à cet aspect, justement, test, expérimentation et aussi l'utilisation des produits locaux? Enfin, c'est vraiment un public qui vient pour ça?
Alors oui, au début, c'était un peu la bataille, donc d'expliquer justement pourquoi il y avait des gros morceaux de glace dans un cocktail, pourquoi est-ce qu'on changeait notre carte toutes les 4 semaines, puisque du coup, il faut savoir que toutes les 4 semaines, la carte créative change complètement, donc il y a une dizaine de cocktails qui disparaissent pour toujours. Il y a des gens qui comprenaient pas, qui disaient « Enfin, ce cocktail est incroyable, on l'adore, c'est un cocktail à la tarte à thym, par exemple, je veux boire ça toute ma vie. » Et donc, ils avaient besoin d'être réassurés, il y a des gens qui sont fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles aussi à leur boisson. Tu sais, en Wallonie ou en tant que Belge, ben, il y a des gens qui vont dans un bar et qui boivent la même chose pendant 40 ans. Mm-hmm. Et donc, du coup, tout ça, le fait d'avoir cassé cette fidélité, de proposer des choses différentes à chaque fois, d'être obligé de goûter quelque chose que peut-être tu vas moins aimer que la fois précédente, on a dû l'expliquer, on a dû un peu batailler. Et en fait, très vite, il y a eu l'évolution des cocktails dans le monde, et puis tout le monde est devenu un peu expert et connaisseur, et donc il y a des gens qui arrivent, ah oui, un Manhattan, j'adore, un Negroni, je connais. Et donc, du coup, de moins en moins d'explications, si ce n'est l'explication de nous, ce qu'on fait, notre concept, notre vision. Mais au niveau des cocktails, maintenant, il y a 90% des gens qui comprennent, qui connaissent vraiment pas mal de classiques et qui sont amateurs, quoi.
Les gens évoluent aussi énormément. La culture des cocktails, c'est une culture qui était quasiment inexistante en Belgique. On se contentait des grands classiques de terrasse.
Les pina coladas, ouais. Tu vois.
Et en fait, aujourd'hui, on a une clientèle qui est de plus en plus intéressée, qui fait des cocktails à la maison, qui va visiter des bars à cocktails quand ils voyagent, quand ils font des trips à Londres et tout ça. Et du coup, on arrive avec des gens qui ont un bagage, en fait, dans des cocktails, qui sont intéressés, qui veulent découvrir. Et on arrive à les toucher par des choses qu'on fait. Et puis, à côté de ça, on se retrouve parfois aussi parce que voilà, il y a des gens qui vont passer la porte du bar et qui, en fait, n'ont qu'une capacité ou intérêt de pouvoir goûter ce genre de choses. C'est toujours un peu, tu vois, c'est toujours un peu compliqué de pouvoir être sûr que ce qu'on fait correspond à tout le monde. Et après, c'est aussi une réalité, c'est que peu importe dans quel secteur tu te trouves, peu importe dans quel artisanat tu travailles, il y aura toujours une partie de l'audimat. Enfin, ouais, l'audimat.
C'est bien, tu peux dire l'audimat.
On va dire de l'audimat dans un podcast. Compose podcast. Qui ne sera pas, en fait, averti de pouvoir aimer, en fait.
Ouais. Ça arrive hyper rarement maintenant.
Oui, bien sûr.
J'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps qui me disait, ben voilà, je voudrais... je sais plus ce qu'elle me demandait comme cocktail, et donc du coup c'était avec des agrumes, etc., chose qu'on n'utilisait pas ou qu'on n'utilise pas pour plein de raisons environnementales. Et donc je dis, bah justement là on a un truc avec des agrumes parce qu'on nous a offert des agrumes d'Italie d'un voyage, mais sinon on n'en a pas. Mais ce cocktail, c'est un martini, c'est très sec, ça va peut-être pas vous plaire, quoi. Et donc du coup la dame, elle rechignait, elle dit, c'est pas grave, je vais prendre un soft. Je dis, bah voilà, nous c'est des soft maison, on fait de l'ice tea maison, on fait de la limonade maison. Donc, et pour finir, elle me dit, ah ben non, donnez-moi un Lusa. Nous n'avons pas de Lusa. Donc voilà, mais ça arrive. Moi, je suis en salle. Je fais quand même pas mal de services et je t'assure que c'est vraiment un pourcentage qui est très, très limité. En tout cas, comparé au début, c'est moindre, quoi, vraiment.
Ouais, ouais. Et vous en parliez tantôt, bah, vous avez une équipe aussi autour de vous maintenant. Ça a été. Comment vous les avez trouvés? Est-ce que ça a été compliqué de donner la confiance à quelqu'un d'autre de venir travailler dans son projet?
Alors, pas du tout. On a eu Javot, dont je te parlais au début, qui était venu donc, pour les 2 jours d'inauguration et qui est resté avec nous pendant des années. Et puis qui, après, pendant le Covid, s'est rendu compte qu'elle avait envie d'autre chose en tant que femme, de peut-être pas travailler dans l'Horeca parce qu'on fait des services tard. Et donc, ça aussi, c'est un autre débat.
Elle est devenue coco danseuse depuis.
Logique. Et donc voilà, qui maintenant travaille dans un petit magasin dans le centre de Namur, et donc il y a des horaires de jour, et qui est une amie très très proche. Donc elle est partie, Jérôme est resté avec nous. Jérôme n'est pas du tout dans la création, il s'en fout complètement qu'on change la carte, qu'on change de cocktail, il n'a aucun intérêt. Mais par contre, c'est un exécutant assez extraordinaire. C'est une machine de l'Horeca, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc il peut t'envoyer 200 daiquiris s'il faut, il va les gérer. Et alors du coup, il a vraiment cet entrain, il se met au travail, il a une force en fait de travail qui est assez incroyable, et en plus il est maniaque. Mm-hmm. Donc il va tout le temps tout nettoyer, tout est nickel dans le lab, en bas, en haut. Donc voilà, donc c'est très important parce que du coup on a des compétences qui sont tous très différentes. Puisque Valentin fout un bordel monstre, hein, c'est pour ça que je dis ça. Désolée. Et alors du coup on a Tommy.
J'en prends plein la gueule. Hein, depuis le début de l'interview.
Tommy, on en parlera après, bébé. Tommy, il a rejoint l'équipe en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Tommy, c'est ce showman incroyable qui aimerait beaucoup faire de la création et donc qui essaye de faire de la création avec Valentin. Mais c'est vrai que voilà, Valentin prend énormément de place et que et donc là, il a encore du chemin à faire par rapport à ça. Mais il tient le bar comme pas possible. Toute sa personnalité, tout son service, c'est quelqu'un qui est issu des bars à cocktails, donc il a déjà une expérience de fou dans cette catégorie-là. Et en plus, qui s'est envoyé un nombre incalculable de cocktails tout en te lâchant une vanne, en t'expliquant sérieusement ce que tu bois et qui est assez incroyable. Ouais. Donc on a vraiment des équipes avec des compétences totalement différentes et avec des gens qui sont assez incroyables et fixes. Donc nous, on a cette chance aussi, c'est de ne pas changer d'équipe.
Ah oui, oui.
Donc voilà, ça serait difficile de devoir réexpliquer à chaque fois ce monde à des nouvelles personnes. Donc ça, c'est bien, on a notre petite famille, elle est construite et pour l'instant, elle est pérenne. Oui,
tu as dit, c'est vraiment une petite famille.
Ouais, ouais, bah, le problème, c'est qu'on se voit tous en dehors aussi. Donc, on a un super restaurant en face qui s'appelle Petit Pays, Joseph, qui se foutait bien de notre tête il y a quelques semaines parce qu'on était au cinéma tous ensemble. Et donc, il dit, mais les gars, vous en avez pas marre de vous voir parce que c'était un lundi, le jour de congé. Et donc, il dit, vous avez pas marre de vous voir, faites tous les services ensemble. Et en plus, le lundi, vous allez voir des films au ciné, vous allez manger ensemble. Il dit, non, on en a pas marre, on s'entend tous très bien, on a les mêmes horaires. Et donc, ouais, on voyage, on a fait même nos congés. On a eu une semaine de congé, on est parti de ma famille en Irlande et on est parti avec l'équipe. Ouais.
Excellent.
Donc,
vous êtes fiers d'avoir lancé déjà Botanical, Alphonse d'abord, et même d'avoir créé tout ça, d'avoir créé tout ce bar à cocktails, mais aussi cette famille.
On subit plus tout ça qu'on le vit, j'ai l'impression.
Ouais, puis on se rend pas vraiment compte. C'est quand on parle avec toi maintenant, tu sais, on se rend compte, on se dit, ah, c'est quand même vraiment chouette tout ce qu'on fait. mais je pense pas qu'on a ce recul de se dire, ah oui, on a créé un truc, ça reste un bar, on mélange des liquides, hein, je veux dire, on n'a pas créé non plus de la pénicilline ou que sais-je, de choses super importantes. Maintenant, on a créé des atmosphères et ça, je m'en rends compte vraiment quand on travaille, où ça me fait sourire. Des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire mon service. Je me dis, allez, c'est pas vrai, je vais encore aller servir des gens toute la soirée. C'est l'image que j'ai. Et puis, en fait, je mets un pied dans le bar et je récupère toute mon énergie et j'ai envie de m'asseoir sur tes genoux et t'expliquer tout ce qu'on fait parce que je suis passionnée, que j'adore ce qu'on fait. Et donc, du coup, là, je me rends bien compte qu'il y a une atmosphère particulière. Il y a ce qu'on vit dans les deux établissements, voilà, ça vibre. Il se passe vraiment quelque chose. Et donc du coup, sur le moment là, ça me rend fière et ça me rend heureuse, vraiment très très heureuse. Mais de se dire voilà, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'équipe, on n'a pas vraiment, tu sais, on a juste la tête dans le guidon, on fait que travailler comme des fous quoi.
Ouais, c'est non-stop.
Heureusement,
on travaille avec passion, mais c'est vrai qu'on enchaîne énormément. En moyenne, par exemple, moi, je fais 80 heures par semaine, 80-85 heures
minimum,
par semaine.
Ouais.
Et on a des semaines qui montent. Ça m'est déjà arrivé, pour la petite histoire, d'avoir tellement d'événements et de trucs, de faire des services de 30 ou 40 heures.
Wow.
Horrible, horrible, vraiment. Et tu vois toute la charge de travail qui te reste, toutes les choses qui te restent à préparer. Et en fait, les mises en place, tu fais le service, terminer la mise en place pendant la nuit, l'événement le lendemain, retourner faire le service. Et là, tu te rends compte que tu as fait 40 heures sans dormir en travaillant.
Parce que tu dois
pas
faire
en
des
faisant la fête, hein, préciser, fais... pas faire la fête. Hein.
Tu fais des prêts d'un
côté,
mais...
C'est pas qu'on a pas
dormi
sur la fête, c'est juste que du travail, quoi. C'est des choses qui nous sont déjà arrivées.
Le labo, bah, il va pouvoir engendrer une certaine somme de produits, de liquides qui doivent être utilisés en priorité pour le bar. En même temps, t'as un événement et donc du coup, il faut mettre son réveil pendant la nuit pour aller faire continuer à faire tes preps puisque c'est énormément de technique. Et donc du coup, tu vas continuer à faire tes preps, bah, comme tous les restaurants de nos potes chefs qui dorment à côté du four et qui mettent leur réveil. Je parle encore de Joseph de Petit Pays. On vit tous des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours de recul parce qu'on est aspiré.
Voilà. Le fait, c'est qu'on n'a aucun recul, en général, sur ce qu'on fait.
Et qu'est-ce qui vous fait tenir, du coup? Quand vous enchaînez comme ça, 40 heures, qu'est-ce qui vous fait tenir?
Mais déjà, moi, je récupère l'énergie, comme je disais.
Qu'on
n'a
pas le choix, surtout.
Ouais, déjà, on n'a pas le choix.
C'est simplement le fait que tu dis
ça
que
peut
pas
s'arrêter.
Le choix, que tu le fasses.
Et puis, ouais, on gagne quand même de l'énergie au fait d'être entouré de gens et de voir que ce qu'on fait, ça plaît, et nous, de récupérer. Mais sinon, de toute façon, tu peux même pas penser à ça.
Ouais, c'est ça.
C'est comme si t'as les agriculteurs qui peuvent pas faire de grève parce qu'ils doivent aller labourer. Nous, de toute façon, il est hors de question qu'on ne se lave pas, c'est Valentin.
On se lave.
Valentin, tu te laves pas les dents, dis la vérité.
Si, je me lave.
Si tu te justifies comme ça, c'est que tout le monde a compris.
Voilà.
Donc tu te lèves le matin et de toute façon c'est ça, c'est tu vas au front. Il y a de toute façon aucun moment où tu te dis ben en fait non aujourd'hui j'ai pas envie ou je suis fatiguée. T'as quand même pas le choix.
Tellement génial.
T'as toute une machine qui est lancée.
C'est pas grave, je ne viens pas.
Ouais. T'as Valentin, donc je disais, c'est quelqu'un qui est pas du tout angoissé, qui est hyper créatif et qui a cet enthousiasme. Et malgré toute cette personnalité et ses caractéristiques propres, à une nouvelle, un stress qu'il n'avait jamais eu avant et souffre d'une espèce de d'angoisse post. Donc ça veut dire quand la boîte aux lettres s'ouvre maison.
La boîte aux lettres, l'enfer.
Et bah du coup il sursaute. Donc il commence à avoir des angoisses. Donc en fait il y a pas un seul moment. Il n'y a pas un seul moment où t'es tranquille. De toute façon il faut que la machine dévore et l'État dévore tellement d'argent. Que de toute façon, t'es obligé
de... Ton GSM est connecté à ton adresse mail, tu rentres chez toi, t'as le courrier avec la facture, t'arrives au bar, tu vas faire les mises en place, les clients arrivent après, faut les servir, fermer. Le lendemain...
Tout ce que tu travailles doit quand même aller pour aller payer un truc, donc de toute façon, tu te lèves.
C'est un cycle sans fin, en fait.
Ouais. Et plus tu gagnes, entre guillemets, plus de toute façon, tu remets. Donc il y a pas une seule seconde où tu peux réfléchir.
Mais on n'est pas dans la plainte. On est vraiment pas dans la plainte. On adore ce qu'on fait.
C'est bien de ramener.
C'est pas ça, c'est que
ramener l'église au milieu
mais
du
non,
village.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait dans ce métier-là, tu crées ta propre prison entre guillemets. Mm-hmm. Tu vois, comme quand je vois des jeunes ou des gens qui ouvrent leur établissement et je vois ils sont dans les travaux et tout, et puis moi je pense vraiment à tout ce moment qui est très heureux en fait où tu composes le projet ou tout ça et puis ils sont là, vraiment faut que j'ouvre et je sais
là,
très bien
là maintenant chill et choisis tes banquettes bon, mec
voilà. Et je sais que vraiment le moment où tu vas te lancer dans la machine c'est un moment de plein de bonheur avec plein d'échanges humains, plein de soucis, mais c'est aussi une nouvelle, c'est pas une nouvelle prison mais c'est un nouveau cadre,
c'est
une nouvelle cage,
ouais.
C'est un nouvel engrenage dans lequel tu rentres et qu'il faut alimenter quoi. Donc voilà, c'est des choses qui ne s'arrêtent jamais. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que nous on vit vraiment dans une cage dorée, un élément qu'on a construit de nous-mêmes par nos mains, mais plus on alimente, plus il devient vorace.
Oui, c'est impossible de switcher et de se mettre son cerveau en off quoi une fois que t'as lancé un projet comme ça.
C'est ça. Voilà. Et donc là l'idée qu'on a.
C'est pour les plus petits, plus t'es petit et plus tu fais de l'artisanat et plus t'es dans cet engrenage là
ouais,
en fait. Hein.
Et l'idée qu'on a là, c'est qu'on rêve d'ouvrir un nouvel établissement encore à Londres, en Angleterre. Ce qui est la capitale internationale du cocktail et au final, on vient de gagner un prix, le 50 Best Discovery, qui est vraiment une énorme récompense pour le travail qu'on fait. C'est très rare d'obtenir cette récompense, surtout en Belgique et surtout en Wallonie. Et notre projet serait de pouvoir dire, voilà, on est arrivé là aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et le rêve, c'est de se lancer sur le marché londonien.
Et j'allais justement vous demander quelle était l'envie pour la suite, mais aussi, est-ce que vous avez déjà imaginé ne pas être dans cette vie-là et avoir une vie, entre guillemets, classique, avec des horaires de bureau, etc., de ne pas avoir le côté créatif, etc.
Bah, des fois, on en rêve, on a déjà rêvé. Un jour, on s'est réveillé un matin, il y a 2 ans, on a dit, tu sais quoi, demain, on vend tout. On se casse, on est fatigué, on n'en peut plus. Puis, il faut qu'on fasse attention à nous aussi, en tant que couple. Et donc, du coup, je dis, moi, je vais aller travailler dans le marketing, faire de la rédaction, j'en sais rien, faire un truc. Lui, il peut travailler comme délégué commercial pour des spiritueux. Enfin, tu sais, on se fait tout un truc. Non, les aspirateurs aussi, ça tirait très bien, mais quoique je suis pas sûre que tu saches comment ça s'utilise, mais c'est pas vrai. Il passe l'aspirateur, chers auditeurs, il passe l'aspirateur. Donc du coup, on a rêvé à d'autres choses en se disant, bah tu sais quoi, demain on arrête. En fait, voilà, on a fait notre maximum, on a donné notre énergie, mais on va aller travailler 2 jours. En fait, très vite, tu te rends compte que, déjà moi, travailler pour un patron. Je pense qu'au bout de 3 mois, ça n'irait pas. Valentin, il serait sûrement, je sais pas moi, faire son truc dans un coin, il écouterait sûrement pas les consignes. Et donc il y a rien à faire, on paye un peu le prix de notre envie de liberté. Et je pense que oui, on a besoin d'être notre, ça fait partie de nous, de notre ADN, c'est de vouloir être autonome et indépendant, ouais. Donc oui, on a déjà pensé, mais on sait que ça ne marcherait pas
trop. Ça ne marcherait pas. Trop bien. Je vais vous poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que vous aimeriez, chacun et chacune, oser faire et que vous n'avez pas encore fait ?
Si tu dis un truc sexuel, je te tue.
Non, je n'y pensais pas, Charlotte.
Ouais, regarde-moi. qu'est-ce que j'ai pas osé faire ? Ah, il y a plein de trucs, moi, j'ose pas faire. C'est très bête. Hein. Par exemple, ici, on est au TRAC, dans les bureaux du TRAC. Et Valentin a déjà donné des talks en collaboration avec le TRAC, etc. Et donc, du coup, c'est très inspirant. C'est des questions qui se posent sur l'avenir de la gastronomie, la technologie, dans nos assiettes et dans nos verres, quel impact elle a. Et donc, du coup, il prend la parole tranquillement, sans un soubresaut, devant 300 personnes. Et il parle avec passion. Moi, c'est un truc que je pense que je n'oserais pas faire, mais qui me donne des fois envie, c'est de me dire, voilà, en fait, j'aimerais bien pouvoir défendre une cause ou alors parler avec passion de ce qui m'anime devant un large éventail de personnes. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas fait, que je ne ferai sûrement jamais parce que je suis trop stressée. Mais voilà, ça, c'est pour répondre à ta question. C'est un truc, voilà.
Trop chouette.
Moi, je ne sais pas trop.
Ça, t'oses tout faire.
J'essaie de réfléchir à quelque chose que j'ose pas faire. J'aimerais faire, mais que j'ose pas faire.
Mmh. T'as pas un ingrédient de ouf que t'as jamais osé utiliser dans un cocktail, par exemple, que tu n'oseras pas ?
Non.
Genre une vessie de porc.
Non, j'ai évité ça.
C'est notre grand débat, c'est parce que du coup, moi, je suis végétarienne. Et le bar est orienté sur tout ce qui est végétal, forcément. Ouais. Et Valentin, au final, ne l'est pas du tout dans son corps intérieur. Et donc, du coup, je sais qu'il veut des fois faire des martinis au poulet.
Non, ça va.
Mais il ne le fera jamais.
Qu'est-ce que je n'ose pas faire ? Divorcer ? Non, je rigole.
Le podcast va être vraiment chouette.
Non, c'est une grosse blague. Tout va très très bien entre nous, Charlotte. Tout va très très bien. Ça me dérange pas de dormir dans le canapé depuis 2 mois, Charlotte. Non, je rigole. Non, tout se passe très bien entre nous, mais non. En général, quand
je pleure quand même.
C'est vrai ?
Non.
Je t'ai jamais vu pleurer.
Je t'aime, bébé.
En général, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, même si ça a des répercussions désastreuses. En parlant du canapé où je dois dormir à l'occasion. Non, je n'ai rien.
Ça peut être une réponse aussi.
Je rêve juste d'ouvrir ce bar, justement, pour parler à Londres, chose que je n'osais pas faire depuis longtemps et que je veux faire. Vraiment, je suis déterminé dans ce sens. Donc voilà, j'imagine que ça va être la chose que je n'osais pas faire et que je vais faire, j'espère.
Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'était trop, trop chouette.
Avec plaisir. Merci encore, Charlie et Valentin, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour les suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer le podcast, vous pouvez aussi le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.